VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin, Gabi Dorsil et Tatiana Mosso. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 26 décembre 2016. Au sommaire ce soir.
Un accident sur le lac Albert fait plusieurs dizaines de morts en Ouganda.
Un Noël ensanglanté dans l'est de la RDC. Au moins 35 personnes ont été tuées dans une série d'attaques des rebelles ougandais et dans un affrontement entre ethnies rivales.
Quel avenir pour le Front populaire ivoirien? Le leader d'une des branches du parti de Laurent Gbagbo appelle à des réformes en profondeur suite à la défaite du FPI aux législatives.
Enquête sur le crash d'un avion russe et en fait 92 morts dimanche. Des pièces de l'appareil ont été retrouvées, mais pas encore les boîtes noires.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Environ 30 personnes sont mortes dans un naufrage sur le lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda, selon la police ougandaise. Le bateau accidenté transportait une équipe locale de football et ses supporters. Le point avec Dilly Dico.
John Rutajira, commandant de la police locale, a expliqué que le navire était surchargé avec 45 personnes à bord. L'eau était calme, mais le problème est survenu lorsque les passagers se sont regroupés du même côté du bateau, ce qui l'a fait chavirer. Environ 30 personnes se sont noyées, 15 ont été secourues par la police et des pêcheurs. Les victimes venaient du village de Kawebanda, dans le district de Bulisa. Il s'agit là du deuxième naufrage d'ampleur en quelques jours sur les lacs en Ouganda. Vendredi, environ 20 personnes étaient décédées dans des circonstances similaire sur le lac Victoria dans le sud-est du pays. Les accidents sont fréquents dans les eaux ougandaises. En novembre, au moins 10 personnes avaient déjà péri dans un naufrage sur le lac Albert.
Les habitants du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont connu un Noël ensanglanté. Des combats et attaques multiples ont en effet causé la mort d'au moins 35 personnes. Lionel Gaïma.
D'abord, dans la région d'Erengeti, en territoire de Beni, des présumés rebelles, ougandais, ADF, ont attaqué plusieurs villages samedi et dimanche, faisant au moins 22 morts.
Les villages risquent d'augmenter parce que c'est la forêt, ils attaquent et puis le lendemain, l'armée et la population cherche un peu ceux qui sont portés disparus. Bon, on ne le souhaite pas, mais je pense qu'ils continueront même au 31, au 1er janvier. Ils sont à la recherche de vivre parce que les militaires sont au fond.
Nikes Kibel Oka est directeur du journal Les Coulisses à Beni. Ce lundi, l'AFP a rapporté la mort de 22 autres civils, des Hutus tués hier par une milice d'ethnie Nandé dans le village de Nyanzale. Depuis plus d'un an, deux ethnies s'affrontent dans les territoires de Lubero, Masisi et Rutshuru. De leur côté, les FARDC disent avoir abattu 6 miliciens.
Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a appelé à l'examen en urgence par le Parlement d'un projet de loi pénalisant le racisme au lendemain d'une manifestation d'étudiants africains dénonçant des cas d'agression. Nathalie Barge.
Des rebelles syriens appuyés par l'armée turque tentent depuis plusieurs semaines d'enlever à Daesh son bastion syrien d'Al-Bab. Les forces d'Ankara y ont essuyé de lourdes pertes la semaine dernière. La coalition internationale a le devoir d'assumer ses responsabilités, notamment en matière de soutien aérien, a déclaré le porte-parole du président Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, lors d'une conférence de presse. L'absence d'un tel appui sans raison valable est inacceptable, a-t-il souligné. Pour sa part, le gouvernement syrien a annoncé avoir découvert un charnier contenant 21 corps dans un secteur d'Alep évacué par les rebelles. L'agence officielle syrienne Sana rapporte qu'il s'agit de civils ayant été exécutés par balles par les rebelles peu avant leur départ de la ville. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, a de son côté rapporté que des corps ont été découverts dans les rues de la partie est d'Alep, mais sans être en mesure de préciser comment les victimes avaient été tuées.
Et comme vous l'avez entendu, ce n'était pas la Tunisie qu'on va écouter tout de suite. C'est un papier de Nathalie Barge.
Il faut une stratégie nationale afin de changer les mentalités. Une loi qui criminalise la discrimination, a déclaré M. Chahed dans un discours à l'occasion d'une journée nationale contre la discrimination raciale. Rappelant que la discrimination raciale constitue une atteinte aux droits humains, il a indiqué vouloir faire du 26 décembre un rendez-vous annuel. Cette prise de position intervient au lendemain d'une manifestation à Tunis à l'appel d'associations d'étudiants africains pour dénoncer de multiples cas d'agression dont celle subie samedi par 3 Congolais. 2 ont eu la gorge tranchée, le troisième a été poignardé, a dénoncé Rachid Ahmad Souleyman, président de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. L'agresseur doit être présenté ce lundi à la justice, a indiqué son père sur Radio Mosaïque FM, affirmant que son fils souffrait de troubles psychologiques. Les autorités parlent pour l'heure d'un acte criminel, sans écarter toutefois un mobile raciste.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, une femme s'est tuée dans une tentative d'attentat-suicide qui a fait plusieurs blessés ce lundi sur un marché aux bestiaux de Maïdougouri, le berceau du groupe islamiste Boko Haram, dans le nord-est du pays, selon un responsable des secours. L'explosion a blessé plusieurs personnes qui ont été amenées dans des hôpitaux, selon la même source.
Enlèvement d'une humanitaire française au Mali. L'époux de Sophie Pétronin, humanitaire française de 66 ans, enlevé samedi à Gao par des hommes armés, s'est dit lundi choqué par ce rapt dont on ne sait rien, survenu alors qu'elle était très entourée. Médecin spécialisé dans l'assistance aux enfants mal nourris au sein de l'association Aide à Gao, Sophie Pétronin vivait depuis le début des années 2000 dans la grande ville du nord du Mali, dans une région instable en proie aux djihadistes et autres groupes armés.
En Égypte, deux hommes condamnés dimanche à la prison à vie pour leur implication dans une attaque qui avait blessé 3 touristes dans un hôtel sur la mer Rouge. C'est ce qu'a indiqué un responsable judiciaire. Lié au groupe État islamique, les deux hommes armés de couteaux avaient fait irruption en janvier dans le restaurant de l'hôtel Bella Vista à Hurghada, blessant un couple d'Australiens âgés et un ressortissant suédois.
Et au Caire, toujours, le parquet égyptien a requis la détention d'un journaliste égyptien de la télévision qatari Al Jazeera, accusé d'incitation à la sédition contre l'État et de diffusion de fausses informations, a indiqué dimanche un responsable judiciaire. Ahmoud Hussein, un égyptien de 51 ans qui travaille au siège d'Al Jazeera à Doha, a été arrêté vendredi au Caire, 3 jours après son arrivée en Égypte pour des congés en famille. Il avait été interrogé mardi à son arrivée à l'aéroport du Caire.
Soudan, les autorités ont libéré 20 personnes incarcérées depuis novembre pour avoir appelé à des manifestations contre la hausse des prix de l'essence. C'est ce qu'ont annoncé 2 partis d'opposition aujourd'hui. Dans un communiqué, Mohamed Arabi, le porte-parole du Congrès soudanais, a annoncé que 16 membres de cette formation avaient été libérés hier. Il a cependant déploré le fait que des dizaines d'autres opposants, dont le chef de ce parti et son adjoint, soient toujours emprisonnés. L'Alliance des forces pour le changement a annoncé pour sa part que 4 de ses dirigeants avaient été libérés.
En Côte d'Ivoire, le FPI, le parti créé par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, doit se rénover en se détachant de l'image de son fondateur qui constitue un handicap. C'est ce qu'a affirmé lundi son chef Pascal Affine-Guessant après son échec cuisant aux dernières législatives. Une partie du Front populaire ivoirien qui avait décidé de présenter 186 candidats aux élections du 18 décembre n'a remporté que 3 sièges, alors que le RHDP, la coalition au pouvoir, se taillait la part de lion avec 167 députés sur 254. Des indépendants ont remporté la majorité des sièges restants.
Retour sur le crash d'un avion russe hier avec 92 personnes à bord. Les sauveteurs ont retrouvé aujourd'hui plusieurs morceaux du Tupolev 154 qui s'est abîmé alors qu'il était en route pour la Syrie. Les recherches se poursuivent pour récupérer les corps des victimes et les boîtes noires de l'appareil. Selon les autorités russes, il n'y a aucune trace de survivants. Au total, plus de 3500 personnes, dont 150 plongeurs, 45 bateaux, ainsi que 12 avions, 10 hélicoptères et des drones sont en action. La thèse de l'attentat semble pour le moment écartée.
En France, la France organisera le 15 janvier à Paris une conférence internationale sur le Proche-Orient. Mais pour le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, il ne s'agit pas d'une conférence de paix, mais d'un tribunal contre l'État d'Israël. Il a même demandé aux Juifs de France de quitter ce pays. La conférence, qui réunira quelques 70 pays, devrait réaffirmer le soutien international à l'existence de 2 États, Israël et la Palestine. Les 2 parties en conflit n'y seront pas représentées.
Où sont passés 19 migrants brésiliens portés disparus depuis début novembre aux îles Bahamas? Ils seraient partis pour tenter d'entrer illégalement ici aux États-Unis. Brasilia redoute un naufrage, mais les diplomates brésiliens pensent aussi que ces 19 personnes pourraient bien avoir été arrêtées et mises en détention. Toutefois, ils ne disposent d'aucune information précise à ce sujet. Une affaire à suivre, Tatiana.
Effectivement, et ici aux États-Unis, le président Barack Obama, qui doit quitter ses fonctions le 20 janvier, s'est dit sûr qu'il aurait remporté un troisième mandat si la Constitution lui avait permis d'être une nouvelle fois candidat. Dans un entretien au podcast The X-Files, animé par son ancien proche conseiller David Axelrod, il est produit par CNN et l'Université de Chicago, Barack Obama a rejeté les critiques affirmant que sa vision pour les États-Unis n'avait été qu'un rêve, mais pas question de s'impliquer dans la politique quotidienne, a dit le premier président noir des États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Et on retrouve tout de suite l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec vous, Dili Dico. Bonjour.
Bonjour Tatiana. Aujourd'hui, en Guinée, ce lundi marque la première semaine de grève dans l'une des principales mines d'or du pays. Le personnel de la société Aurifère de Guinée, filiale de la compagnie sud-africaine AngloGold Ashanti, a barricadé l'accès à la mine et empêché le décollage d'un avion chargé d'or pour protester contre le montant de la prime de fin d'année. Sadou Nimaga, le secrétaire général du ministère guinéen des mines, a fait savoir que les négociations avançaient. Outre la Guinée, AngloGold est actif en Afrique du Sud, au Ghana, en RDC, au Mali et en Tanzanie. Alors que la question de la légalisation du cannabis se pose à nouveau au Maroc, plusieurs politiques marocains veulent faire de la culture de cette drogue une activité autorisée. Plus d'un million de familles marocaines vivent de ce secteur. La légalisation du cannabis permettrait donc au Maroc de se positionner comme un fournisseur de cannabis médical et pharmaceutique. Le secteur des drogues médicinales pourrait rapporter beaucoup à l'Afrique, car le continent a des terres très fertiles pour la production de la marijuana. L'Afrique représente aujourd'hui 27% de la production mondiale de cannabis, avec l'Afrique du Sud et le Nigeria comme principaux producteurs. Et aussi au niveau de l'énergie, à l'aube de 2017, la Banque mondiale soulève la question de la rentabilité et de la solvabilité des énergéticiens publics en Afrique, avec l'annonce de nouvelles pertes spectaculaires pour l'ECG, Electricity Company of Ghana, et des persistants problèmes de gouvernance. La compagnie va bientôt être mise en concession. En Afrique, le cas du Ghana n'est pas une exception, car de Conakry à Nairobi, en passant par Alger, Bamako, Kinshasa ou Bangui, les énergéticiens sont confrontés à des difficultés structurelles sur le plan financier.
Passons tout de suite à la page sport avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
CAN 2017 pour commencer, Burkina Faso appelle à souscription pour soutenir la sélection nationale.
Initiative du ministère burkinabé des sports et loisirs, société, entreprise, ministère, administration publique et privée, supporters, toutes personnes de bonne volonté Gabi, sont mobilisées pour accompagner les étalons à rééditer les exploits de la CAN 2013 en Afrique du Sud où ils avaient été finalistes.
Espagne, Iniesta veut rester au Barça.
Tout
c'est
ça à fait, Gabi. Le capitaine du FC Barcelone veut continuer avec le club catalan pour y jouer aussi longtemps que son niveau de performance le lui permettra. Son contrat arrive à échéance en 2018. L'emblématique milieu de terrain détient le plus beau palmarès de l'histoire du club, avec 29 trophées depuis ses débuts au club en 2002.
Alors, on a joué les 17e et 18e journées du championnat d'Angleterre. Comment se présente le classement ?
Chelsea est premier avec 43 points, Liverpool 37, Manchester City 36, Arsenal 34, Tottenham 33 et Manchester United occupe la 6e place avec 30 points.
Et pourquoi dit-on que la mort de Fidel Castro laisse l'olympisme cubain orphelin ?
Fidel Castro était le meilleur allié de l'olympisme cubain, hein, Gabi. Hein. Le leader Maximo est parvenu à faire de Cuba une puissance sportive. Il a longtemps porté haut le flambeau du sport cubain, le menant au pinacle olympique, avant un lent déclin lié à la chute du grand frère soviétique. L'ex-champion du monde et double médaillé olympique du 800 mètres, Ana Fidelia Quirot, a souhaité à qui vont gouverner l'île, à ceux qui vont gouverner l'île, à l'avenir, de continuer à porter haut ce flambeau.
Parlons basket, et on s'en est régalé hier, Eric, particulièrement le match entre Cleveland et Golden State Warriors.
Oui, différence d'un point Gabus à 9-108. Ce duel entre les Cavaliers et les Warriors a rappelé une bataille digne d'un match des playoffs. Golden State est encore craqué dimanche, 6 mois après un retentissant comeback de Cleveland dans la finale 2016.
Et vous ne pouvez pas partir sans mentionner la victoire de mon équipe San Antonio Spurs face à Chicago.
119-110.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Tatiana Mousseau et Gaby Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Nous commençons cette semaine notre rétrospective 2016 en passant en revue l'année qui se termine avec bien sûr nos correspondants sur place. Tatiana, aujourd'hui le Tchad, le Cameroun, le Mali et la Guinée.
Et on vous emmène tout de suite au Tchad, où l'année qui s'achève a été marquée par une crise économique et financière sans précédent qui a plongé le pays dans une situation d'incertitude. Pour faire face à cette crise, le gouvernement a pris des mesures d'urgence pour renflouer le trésor public. Une décision qui a failli emporter le gouvernement actuel. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmajingar.
14 ans après l'exploitation de son pétrole, le Tchad a du mal à payer ses fonctionnaires à terme échus et financer le fonctionnement des services publics, surtout les deux derniers trimestres de l'année qui s'achèvent. Une tension de trésorerie que les hautes autorités justifient par la baisse du prix du baril du pétrole, alors que les organisations de la société civile parlent de la mauvaise gestion des ressources qui a conduit à cette crise. Ne pouvant plus supporter, les syndicats des travailleurs du secteur public ont déclenché une grève d'avertissement le 8 août 2016 avec service minimum dans les hôpitaux pour exiger le paiement de leurs salaires, mais sans succès. Et c'est dans cette situation de crise de confiance entre les travailleurs et le gouvernement que le Conseil extraordinaire des ministres du 31 août 2016 a pris des mesures d'austérité tendant à réduire les charges publiques afin d'accroître les recettes. Voilà une goutte d'eau qui a débordé le vase. L'Union des syndicats du Tchad, le Syndicat national des anciens et chercheurs du supérieur et la Confédération des syndicats des anciens du Tchad se sont regroupés dans une plateforme pour lancer une grève sèche qui paralyse l'administration depuis plus de 3 mois. Conséquence, les activités scolaires et académiques sont bloquées. Le premier ministre chef du gouvernement, Paimi Padake Albert, a rencontré par 2 fois de suite les responsables de cette plateforme pour leur demander d'observer une trêve sociale de 12 mois.
Trêve qui nous permettrait de travailler ensemble pour résoudre les problèmes auxquels notre pays est confronté et vaincre ensemble la crise économique et financière que l'État traverse.
Barka Michel, l'un des porte-parole de la plateforme de revendication syndicale, répond à l'appel du premier ministre chef du gouvernement en ces termes.
La trêve pour nous syndicalistes, c'est toute une discussion. Ça ne se décrète pas comme ça. Parce que pendant la trêve, c'est qu'on ne doit pas aller en grève, par exemple. C'est ce que le gouvernement veut, dans la mesure où, pendant qu'on parlait, ils ont appliqué déjà leurs mesures qui ont été à l'origine de tout ce qu'on a vécu. Nous, on leur dit maintenant, suspendez ces mesures-là. Nous ne pouvons pas dire, allons au dialogue et voilà, on coupe les salaires des travailleurs. Déjà, un salaire qui ne permet pas aux gens de vivre correctement. Et en plus, un salaire qui n'est pas payé depuis 2-3 mois.
En rappel, cette situation d'incertitude a failli emporter le gouvernement actuel de Paimi Padake Albert. 22 députés de l'opposition ont initié une motion de censure contre le gouvernement pour refus de communiquer avec le peuple tchadien sur l'état de santé financière du pays, mais aussi lui demander de comptes par rapport aux militaires envoyés sur le théâtre des opérations de guerre à l'extérieur sans l'accord préalable de la représentation nationale. Programmés pour le 17 septembre 2016, les députés du MPS partis au pouvoir se sont entendus pour fuir le débat. Autre fait lié à cette crise, c'est la poursuite disciplinaire du secrétaire général du syndicat des magistrats du Tchad SMT Djonga Arafi devant le Conseil supérieur de la magistrature. Bonne fin de l'année à tous les auditeurs de la VOA. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Au Cameroun, l'année 2016 aura été marquée par une succession d'événements négatifs, nous dit de Yaoundé, Moki Edwin Kenzeka.
Le film de la période sombre commence en mars lorsque les images d'une femme éventrée gisant dans un bain de sang à l'entrée de la maternité de l'hôpital La Quintinée de Douala font le tour des réseaux sociaux. En effet, Monique commentait qu'elle serait décédée avant de pouvoir donner naissance à ses jumeaux et sa sœur, croyant sauver le bébé, a procédé à une chirurgie dans des conditions précaires. C'est face à ces images sur Facebook et autres que plusieurs Camerounais ont exprimé leur indignation, accusant ainsi le personnel médical du dit hôpital de négligence. Des mois ont passé et on se serait cru à l'abri des événements tristes. Seulement le 21 octobre dernier, le Cameroun vivra un des événements les plus tragiques de son histoire, à savoir le déraillement du train de la société Cambrai près de la gare de Seka dans la région du centre. Le train en partance de la capitale Yaoundé pour la cité économique Douala avait fait 80 morts et plus de 600 blessés. Cependant, le chef de l'État, Paul Biya, avait mis sur pied une commission d'enquête que devait présider le premier ministre. Seulement, les résultats devant déterminer la cause de l'accident n'ont pas encore été rendus publics, ce qui rend perplexe l'opinion publique. Quelques semaines après, c'est au tour de la région de l'Est de vivre un drame plutôt inhabituel. Il s'agit du décès d'une trentaine de personnes après avoir consommé le Donctol, une boisson alcoolisée fabriquée localement. L'année rétrospective au Cameroun s'achève avec des vagues de grèves tenues dans les parties anglophones du pays. En effet, les avocats et enseignants d'expression anglaise sont descendus dans la rue pour protester contre l'influence prononcée du français dans les zones anglophones du pays. Par ailleurs, l'on peut évoquer un aspect positif dans la succession des événements au cours de cette année. Les attaques perpétrées par les groupes terroristes Boko Haram deviennent de moins en moins régulières, ce qui a entraîné la réouverture des frontières entre le Cameroun et le Nigeria après 3 ans de fermeture. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
L'année 2016 s'achève au Mali comme elle avait commencé, c'est-à-dire dans l'insécurité générale, attaque contre l'armée malienne et ses partenaires de la MINUSMA et Barkhane, mais aussi un accord, celui d'Alger, qu'on ne parvient pas à appliquer. L'année 2016, c'est aussi la disparition d'un journaliste malien qui reste introuvable, les violences contre les femmes, mais surtout la question migratoire qui est à la base d'une crise de confiance entre les Maliens et les autorités, nous rappelle notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
À cause de l'insécurité, le Mali est devenu un pays qui est permanemment en état d'urgence. Depuis janvier jusqu'à nos jours, cette disposition est en vigueur. Mais il n'a rien changé dans le comportement des Maliens. L'état d'urgence qui devrait permettre la sécurité des personnes et de leurs biens n'a pas empêché la première disparition d'un journaliste au Mali, à la personne de Birama Touré, qui travaillait au journal Les Sphinx. Birama Fall, président de l'association des éditeurs de la presse.
Les sujets qu'il traitait, c'est des sujets qui ne fâchent pas. Maintenant, ça aurait été un autre journaliste, je peux compter qu'il avait été arrêté. Mais la sécurité d'État, qui se cherche aujourd'hui, a choisi de nous accompagner. Il y a deux officiers suprêmes de la sécurité d'État qui sont en train de le chercher activement. Sans compter qu'au niveau des services de la police scientifique, on a fait une traçabilité sur son téléphone. Donc on est en train de voir à qui il a téléphoné, quand est-ce qu'il a téléphoné, où il a téléphoné.
En début février, c'est le rapatriement des Maliens de la Libye. Le dernier convoi qui était de 173 personnes est arrivé tard dans la nuit. Youssouf Sissoko, rapatrié.
Mon neveu a été blessé. Il était avec moi pendant des années. Nous avons travaillé. Tout comme lui, celui-là aussi était dans une raffinerie. Il est tombé sous des balles ennemies. Personne ne sait quoi faire à Libye actuellement. C'est pourquoi nous avons sauté sur cette occasion.
Au moment où l'insécurité battait son plein partout, il y a eu des vols d'armes dans les dépôts de certaines casernes de la capitale, ce qui augmenta la peur chez les Bamakois. En début mars 2016, ce sont des conflits intercommunautaires qui ont vu le jour, surtout dans les centres. La plus meurtrière s'est déroulée dans la commune de Nampala. Abba Ibrahim Abba, maire de Nampala.
Les victimes, c'est les 80% sont de Nampala, de ma commune. Rien ne vaut la paix. Ce qui s'est passé, c'est passé.
Mohamed Adj
Erlaf, ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État.
Nous avons déjà la preuve que les populations se sont réconciliées parce que la population peule en quittant a laissé ces animaux. Et la communauté Bambara a promis qu'aucun de ces animaux ne mourra de soif.
Comme à Nampala, dans plusieurs localités du Mali, il y a eu des attaques. Des attentats, des explosions de mines qui ont occasionné la mort des militaires maliens, des casques bleus et même souvent des soldats de Barkhane. C'est dans ce contexte que l'an 1 de la signature de l'accord a été célébré, mais un accord qui n'a rien changé sur le terrain.
Aujourd'hui, les ex-rebelles refusent toute question de cantonnement tant que les autorités intérimaires ne sont pas mises en place. Une loi a été adoptée dans ce sens, mais tarde à être concret sur le terrain.
2016 au Mali, c'est aussi la tenue des élections communales. Après plusieurs reports, mais dans des conditions difficiles à cause de l'insécurité. Une insécurité qui persiste de nos jours. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Et on termine en Guinée avec Zakaria Camara.
2016 finit sur une note positive. Le vaccin canadien contre Ebola se révèle efficace à 100% après un test sur plus de 6000 personnes. La nouvelle réjouit les Guinéens qui ont eu des frayeurs au mois de mars avec la réapparition du virus Ebola. Et pourtant, l'année commence avec de bonnes nouvelles en janvier. D'abord, un nouveau gouvernement est formé avec pour mission la relance économique. L'autre nouvelle concernait l'arrestation en Guinée d'un djihadiste mauritanien. Mais quelques semaines plus tard, un journaliste est tué devant le siège de l'UFDG. Le 9 février, les médias guinéens organisent une journée sans presse et réclament justice. La rédaction reprend les activités le lendemain et diffuse la libération de l'ancien chef d'état-major général des armées et 5 autres officiers le 3 mars. Ces militaires avaient été arrêtés suite à l'attaque du 19 juillet 2011 contre le domicile du président Alpha Condé. 2016 aura été aussi une année d'activités politiques. En octobre, un accord est obtenu après plusieurs jours de discussions entre le pouvoir et l'opposition. Les deux parties s'accordent sur l'organisation des élections locales en février 2017, recommandent la mise en place de la Haute Cour de justice et la libération des personnes arrêtées lors des manifestations politiques. Le général Bourema Condé, président du cadre du dialogue.
Les Guinéens se sont parlé, les Guinéens se sont compris et les Guinéens se sont mis d'accord. Le mérite revient au chef de l'État pour sa lucidité et la volonté qu'il affiche aujourd'hui d'aller à l'apaisement, rien qu'à l'apaisement. Le mérite revient également au chef de file de l'opposition qui est resté pendant tout ce dialogue à l'écoute de sa représentation mais aussi en communication permanente avec le président de la République.
L'accord est obtenu et plusieurs jeunes rendent publics leurs intentions de se présenter aux élections communales. Un mouvement est lancé pour soutenir les candidatures indépendantes. Alpha Bakar Bari, membre du mouvement Liste Citoyenne.
L'aide est d'abord intellectuelle. Ce que nous voulons apporter à ces gens, c'est d'abord l'assistance juridique pour qu'ils comprennent la loi et comment la loi fonctionne. Et dans la constitution, par exemple, de leur caution, les opérations de campagne, etc., etc., ce sont des choses que nous voulons améliorer. Ce sont des supports que nous voulons apporter justement aux candidats.
Les jeunes leaders espèrent améliorer les conditions de vie des Guinéens s'ils arrivent à la tête des communes. Des Guinéens qui ont eu besoin d'une campagne de sensibilisation à la citoyenneté. La Semaine nationale de citoyenneté était une initiative du ministre guinéen de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby.
Face à l'incivisme auquel est soumise la société guinéenne, cela crée un état social de tension, un système de désordre dans la société, des rapports de voisinage difficiles, les rapports entre les citoyens et la loi complexes, le rapport entre les citoyens et la puissance publique difficile. Cela crée un environnement effectivement de crise. Quand on dit crise, c'est qu'il y a dysfonctionnement. Et quand il y a dysfonctionnement, c'est que la société guinéenne est effectivement malade sur ces questions précises.
Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
C'est c'est la fin de cette édition. À la mise en ombre, Lionel Gaïma, à la console John Dryden et à la présentation Chérubin, Gabi Dorsil et Tatiana Mosso.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook, partagez vos impressions, vos photos, posez des questions, on essaiera d'y répondre dans nos programmes interactifs et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24h sur 24. Et bonne fête à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.